comment dire, Tcherkessie, bédouin, tiens, juif, hein. Donc il devient arabe. Donc elle devient arabe. Donc... Ça me dérange. Il chot rechilut. Alors, qu'est-ce que c'est que la rechilut? Ato en dvarim miselezé. Quelqu'un qui transporte des paroles d'un à l'autre. Veolech veomer karamar ploni. Quelqu'un m'a dit ça sur toi. Toi, il m'a dit ça. J'ai entendu ça sur toi. Tu m'as dit, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ta, 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 ta. Même s'il n'y a pas de choses négatives, ça s'appelle rechilut. La réchiloute, c'est pas méchant, c'est pas forcément, c'est pas comme le lashon hara. C'est juste du colportage. En yiddish, ça s'appelle yachne, la concierge. Yachne, c'est, ah oui, être yachne, c'est les gens qui, voilà, les ragots. Le ragotage. Voilà. Donc c'est interdit de faire de la rechilut, même si il n'y a rien de méchant. Ah, j'ai entendu que tu as acheté une maison, Zalto, qu'est-ce que tu fais, ah, est-ce que tu deviens, nanana, il a dit lui, s'il a dit ça, et toi tu as fait ça.
Attendez, même s'il s'agit de femmes de ménage, par exemple.
Pardon?
Je venais raconter
ce
que la
femme
de ménage...
Non, mais jamais, dès qu'on colporte, ça s'appelle colporter. Ouais. Ça s'appelle Rachid, il dit ça s'appelle manger le morceau. Quand on mange le morceau chez les gens, c'est raconter des trucs qu'ils ne regardent pas, quoi. Ils n'ont aucun intérêt. C'est le ridouche, c'est pas méchant. Non, ça ne parle pas qu'on veut améliorer la situation. On parle de, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est, il a fait ça, il a dit ça. Il a... Voilà.
Il
ne
faut rien dire, quoi.
Voilà. Oui. Voilà. Baruch Hashem. Il faut, voilà. Il ne faut rien dire sur des choses constructives. Non, pour aider, pour... Est-ce que tu sais si celui-là, il a de la viande pour Shabbat? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Intervenir que pour réparer le monde. C'est tout.
Donc, on va plus s'intéresser à peu près des
gens de la société. Baruch Hashem, très bien. Au moins, l'enfer est plein de gens qui étaient intéressants. Allez, une petite alarcra de Shabbat. Quand il y a un malade qui n'est pas en danger, on ne parle pas d'un malade en danger, c'est évident que malade en danger, on doit tout faire pour lui. On parle d'un malade qui n'est pas en danger. Ou alors qui a ce qu'on appelle sakana teva, il risque de perdre un membre. D'accord? Sakana teva, quelqu'un s'est coincé le doigt dans une porte, le doigt va être coupé. Pas de danger. Ou danger d'un membre, ça s'appelle pas. Ça s'appelle pas piquoir nefesh. Ça s'appelle pas. Donc on ne peut pas transgresser. On ne peut transgresser. On ne peut faire que des choses qui sont des rabbanan, que des interdictions de rabbanan, pas de la Torah. Tout ce qui est de Torah, on ne peut pas le faire. Donc on fait soit des choses de rabbanan, par exemple prendre des médicaments ou prendre des choses qui sont interdites que des rabbins, soit faire un travail, soit demander à un goy de faire le travail, la melacha.
Vous disiez, il y avait des gens que non, on n'avait même pas par... On ne pouvait pas demander à un arabe de faire un travail même
par... Non, on parle quand il s'agit de re-shoot, de choses stables, on parle de quelqu'un qui est malade. qui est malade n'est pas en danger, ou qui a un danger de perdre un membre. Donc on peut demander des travaux à un goy, ou alors faire des travaux si ce ne sont pas des travaux de la Torah. Ou alors, si c'est un travail de la Torah, le faire à deux. Quand on fait à deux, alors ça s'appelle pas, c'est interdit de Rabbanan, c'est pas interdit de la Torah, de faire une melakha à deux. D'accord ? Voilà, une melakha à deux. C'est-à-dire lui et la personne et vous, par exemple. C'est les 49 travaux. 49 travaux de la construction du tabernacle dans le désert. D'accord ? Ça ne veut pas dire fatigue, mais ça veut dire travail. En latin, ça se dirait opéra. Opéra, c'est œuvrer quelque chose. C'est pas forcément fatigant. Coudre, cuisiner, écrire, utiliser l'électricité, c'est pas fatigant, mais c'est un opéra, c'est une œuvre. C'est donc un travail. C'est pas un travail qui ramène de l'argent ou qui fatigue. D'accord ? C'est pas une avoda, c'est une melacha. Faut pas confondre. Melacha et avoda. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez, une petite halakha de Tisha B'Av et on y va. Qu'est-ce qu'il y a sur Tisha B'Av ? Il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà. On jeûne à partir de, je vais vous dire ça tout de suite, si le Mashiach ne vient pas, bien évidemment, il va venir. Lundi soir, il faut arrêter de manger. Le coucher du soleil, c'est 8 heures moins quart. Donc il faut, juste avant 8 heures moins quart, il faut arrêter de manger. Quoi. Voilà, avant la Shkia. À 8 heures moins 20 à peu près, il faut arrêter de manger. Non, il n'y a pas d'adakadérot. Il n'y a pas d'adakadérot, Béaz. Oui, mais quel rapport avec le Shabbat et Tisha B'Av? Quelle est votre question? Je n'ai pas compris. On parle de Tisha B'Av. Alors.
Non, mais c'est pas ça. Elle pense que c'est comme Shabbat.
Le jeûne commence à la même heure. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que le jeûne commence à la même heure? Non, pas du tout. Il finit plus tôt que le Shabbat et il commence plus tard que le Shabbat. Le Shabbat, c'est spécial parce qu'il y a un issur de melacha, de travail. De travail. Et il y a une mitzvah de rajouter des minutes en plus de Kodesh dans le Chol, vous voyez? Donc, on rajoute des minutes avant Shabbat et on rajoute des minutes après. On rajoute des minutes avant la nuit, avant le coucher du soleil et on en rajoute après la nuit. Parce que c'est une mitzvah de rajouter des minutes pour fabriquer du Shabbat à nous. Alors Shabbat c'est spécial, vous comprenez? Oui, c'est presque 25 heures parce qu'une heure entamée s'appelle une heure en fait. Donc vous n'êtes pas obligé d'arrêter comme Yom Kippour. Yom Kippour c'est ressemblant à Shabbat. Donc on arrête de manger un peu plus tôt que le coucher du soleil. On arrête de manger un peu plus tôt que le coucher du soleil à Yom Kippour. D'accord ? Parce que les Chachamim nous ont demandé de faire comme pour Shabbat, de même façon qu'on rajoute. On arrête les travaux plus tôt à Yom Kippour comme Shabbat. On arrête de manger aussi un peu plus tôt. Vous avez compris? Et on arrête de manger et on remange un peu plus tard. comme le Shabbat. Alors que Yom Kippour, c'est comme ça. Mais Tisha B'Av, ce n'est pas une instauration de la Torah. C'est de Rabbanan, Tisha B'Av, malgré tout. Bien que ça ressemble à point par point à Yom Kippour, ça n'est pas comme Yom Kippour. Donc il faut s'arrêter de manger à 8h moins un quart, moins 20, quoi. D'accord, moins 20, moins un quart. Moins un quart, dernier délai. D'accord. Et vous pouvez manger la nuit tombant à 46 et 20, ça fait 6. À 8h10. Avant Arvit, après Arvit, non, Méchané. Ça n'a rien à voir avec Arvit. C'est une mitzvah de Rabbanan de ne pas se détacher de la communauté. Ben, le soir, on lit les lamentations de Jérémie. Non, les femmes, si elles veulent. Si on veut, c'est comme la Megillah de c'est une des cinq Megillotes, d'accord? C'est cinq Megillotes. À Pourim, on lit Esther, et à Shavuot, on lit Ruth, et à Sukkot, on lit l'Ecclésiaste, et à Pessah, on lit Shir HaShirim, et à Tisha B'Av, on lit Eicha. Les lamentations de Jérémie. Et après, il y a quelques lamentations le soir, c'est pas l'essentiel. Et le lendemain matin, l'essentiel de la prière, c'est les lamentations, justement. Les gens s'assoient par terre. Il faut s'asseoir par terre dès que la nuit tombe, d'ailleurs. Dès que la nuit tombe, jusqu'à midi. Il faut rester assis. C'est tout le monde. Les enfants, les hommes, les femmes, les chiens et les... Il faut manger, il faut s'asseoir par terre jusqu'à exactement 1h15. Voilà. Si vous voulez vous asseoir, vous asseyez par terre. Alors, si vous voulez vous allonger, vous pouvez vous allonger n'importe où. Mais si vous voulez vous asseoir, vous asseoir sur une chaise qui fait pas plus de 30 cm de haut.
Et la lumière dans les pièces.
Ouais, on diminue un peu les lumières, on fait une atmosphère de tristesse. Dans les synagogues, on diminue un peu les lumières. Voilà, mais on peut prendre les autobus, par exemple. C'est pas grave, la hauteur du siège. On peut prendre un taxi. On peut prendre un avion si on vient en Israël. Ouais, si on doit faire une mitzvah, on peut prendre l'avion, la voiture ou le bus, ou la voiture. Non, mais vous, c'est pas le travail que vous faites, c'est une... Il vaut mieux parce que vous allez être crevé si vous travaillez. Vous, c'est pas un travail, vous, c'est un... Vous aidez des gens, c'est pas un travail, c'est pas comme quelqu'un qui a un magasin. Si vous êtes obligé, c'est fatigant, vous comprenez que c'est obligé. Si vous êtes obligé, alors il faut y aller. Si vous n'êtes pas obligé, il vaut mieux pas y aller, parce que c'est fatigant de travailler quand on jeûne avec la chaleur.
On doit lire Jérémie.
On doit lire Jérémie, et ses lamentations. Allez, on y va, c'est tout, ça suffit? Bon, vous lirez dans tous les kits souris, tous ces trucs-là, passer la soirée à vous. Je sais pas, partout il y a des kits souris, en français, en hébreu, en toutes les langues, les petites halakhot. Maintenant, pour remanger de la viande, il y en a qui attendent le lendemain pour manger de la viande. Vous pouvez manger le soir que s'il y a, par exemple, une grande fête, par exemple. Une simcha, alors vous pouvez manger. Hein? Sinon, parce que la vraie destruction du temple, c'était le 10. C'est le 10 qu'il a brûlé, c'est pas le 9. Le 9, c'était que le début. De toute façon, vous n'êtes pas à ce point-là à manger de la viande. C'est pas bon pour la santé, la viande. Toute l'année, ne mangez que du poisson. Allez. Si vous avez des questions, regardez dans le kit Sourim qui distribue partout. C'est quoi ces gâteaux là? Ah, c'est son anniversaire! C'est quand votre anniversaire? C'est quand le 4 av? Oh, Mazal Tov! On ne vous demandera pas votre âge. On ne demande pas l'âge des gens.
Hein?
Bon, allez, donnez-moi un gâteau, comme ça je vais dire, je vais lui souhaiter une longue vie avec beaucoup de bonnes nouvelles.
Amen.
Et puis, voilà. Voilà, un petit garçon cette fois-ci. Bon, attends.
Qu'est-ce
que tu dis? Ben, tu peux le bénir, tu sais. Vous savez comment il s'appelle?
Reviens
vers moi. Bon, ben voilà. On a marqué le coup. C'est que du sésame avec de la nougatine, c'est pas sérieux. Il n'y a pratiquement pas de farine là-dedans. Bon, allez, on va faire un petit cours ce soir. J'espère que ça marche. Oui, ça marche. On va parler de un des aspects de Tisha B'Av. Il y a écrit dans le Rambam, expliqué dans le Rambam que pendant le deuxième temple, il faisait encore le deuil de Tisha B'Av. Il faisait le deuil du premier temple, d'accord? Bien qu'il y avait le deuxième temple. Faisait le deuil du premier temple. En même temps, quoi. En même temps qu'il y avait le temple, il y avait le deuil du premier temple. Alors, c'est effectivement très bizarre. Puisque tu pleures la destruction du temple. Maintenant que tu as le temple, pourquoi tu continues à pleurer la destruction du temple? Alors, ça veut dire que le troisième temple, on fera encore Tisha B'Av, c'est ce que vous voulez dire? Voilà, d'après ça, ça veut dire que quand Machia va venir, donc ça sert à rien, que Machia vienne ou vienne pas, Tisha B'Av, on fait encore le deuil. C'est ce que nous sommes en train de dire. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de spécial. D'accord? Si tu dis que tu as reconstruit le temple, tu n'as pas besoin de pleurer sur l'ancien. D'accord? Comme quelqu'un qui avait un objet, il a cassé, il a de la peine, puis tombe, on lui ramène le même objet. Ah ben ça y est, il va pas repleurer son premier, c'est lui, il faut pas être lourd. D'accord? Donc c'est impensable qu'ils aient fait le deuil du premier temple alors qu'ils avaient le deuxième temple.
Mais ma chère, il n'est pas venu au deuxième temple.
Donc il y a quelque chose dans le temple, il y a quelque chose dans Tisha B'Av que le temple ne résout pas. D'accord?
Ouais.
Pour qu'on ne fasse plus Tisha B'Av en tant que deuil, il faudrait qu'il n'y ait pas seulement le temple, mais il faudrait quelque chose en plus. Qu'est-ce qui manquait donc dans le deuxième temple pour qu'on pour qu'on mentionne encore le deuil du premier, c'est que dans la notion de galout, quand on dit la galout, l'exil, c'est pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de temple ou qu'on ne soit pas sur notre terre. La galout, c'est le fait de ne pas voir de perfection dans ce qui se passe. Quand il n'y a pas une perfection dans ce qui se passe, ça s'appelle galout. Même s'il y a des choses qui vont, du fait qu'il n'y a pas, tout n'est pas réglé, tout n'est pas clair, ça s'appelle exil. Et c'était ça le problème du deuxième temple. C'est que, en fin de compte, le problème essentiel qui était douloureux dans la destruction du premier temple, c'était pas la destruction du temple, c'est la dureté avec laquelle la galoute a eu lieu. Les enfants, les femmes qui ont été égorgées, les Babyloniens qui ont tout détruit. Et les Babyloniens, c'était des gens idolâtres, très cruels et très anti-occultes. Donc la question restait pour eux, comment se fait-il que l'Empire mésopotamien n'a pas été détruit, ça racole. Il a fait du mal, il n'a pas été puni pour ça. Et pourquoi tellement de sang, tellement de cruauté, Dieu aurait pu détruire le temple délicatement. Il aurait pu nous exiler délicatement. Il aurait pu faire ça proprement. Quand après l'exil de Rome, quand ils ont détruit le deuxième temple, l'exil n'a pas été, c'était pas des déportations, ils n'ont pas été déportés en Europe et en Afrique. Ils sont partis d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce qu'il n'y avait plus de quoi manger. Donc, automatiquement, il n'y avait plus rien à faire ici, ils sont partis. Alors que dans le premier temple, c'était des déportations, ils ont été déportés au,
c'est le premier qui l'a fait, lui,
Nabucodonosor. Ouais. Donc, la question reste, c'est pour ça qu'ils ont fait continuer le deuil au deuxième temple, la question reste, pourquoi du mal? Pourquoi la Shoah? Pourquoi l'Inquisition? C'est vrai qu'on n'est pas comme il faut, d'accord? Sinon, il ne pourrait pas nous arriver des mauvaises choses. On ne peut pas concevoir que Dieu fasse du mal pour rien. Donc tout ce qui nous arrive, c'est toujours une réponse à notre comportement. Mais pourquoi le principe de la galoute? Pourquoi tout est si dur? Pourquoi si dur? D'accord? Pourquoi si? Douloureux. Et c'est cette question-là qu'ils avaient au deuxième temple. C'est vrai qu'ils ont eu l'autorisation par Cyrus de construire le deuxième, mais ils n'ont pas vu la raison pourquoi la destruction du premier était si dure. C'est donc qu'ils ont reposé la question, et c'est ça la question de Tisha B'Av, en fait. La question classique, pourquoi dans le monde il y a le principe de tzadik vera lo vera sha ve tov lo. Pourquoi il y a ce principe? Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Pourquoi y a-t-il ce principe du juste qui a du mal pour lui et le méchant qui a du bien pour lui? C'est ça la question du deuxième temple. Donc c'est pour ça que le Rambam ne vous le dit pas. Il vous dit simplement, sachez qu'au deuxième temple, on faisait encore le deuil du premier. Et c'est ça la raison. Parce que tu n'as toujours, tant que tu n'as pas réglé ce problème-là, ça s'appelle l'exil. Même si tu as des joies dans l'exil, même si tu as un mieux par rapport à avant, de l'abondance, des bonnes nouvelles, tout ce que tu veux, tant que tu n'as pas réglé ce problème, pourquoi le mal touche-t-il les justes et le bien et les méchants vivent dans le bien, ça, cette question, elle traînera jusqu'à l'avenue de Mashiach. Pas pour rien que un rescapé de la Shoah, le Rabbi a dit, la première question qu'on posera au Mashiach, c'est pourquoi il y a eu la Shoah. Ça veut dire quoi cette question? C'est cette question-là. C'est vrai que l'assimilation était gigantesque et la haine était terrible en Europe. C'est vrai. Mais est-ce que ça justifiait la Shoah? Ça pouvait justifier des drames, des répressions, des punitions, tout ce qu'on veut. D'accord? L'Inquisition, pareil, d'accord? Les tortures qu'ils ont eues en Espagne et au Portugal, c'est des tortures inimaginables. Ils ont fait une encyclopédie de la torture. Mais vous imaginez pas comment les gens ont de l'imagination pour torturer. Et tout ça a été utilisé. Donc c'est pas parce que à ce point-là, les Juifs étaient méchants en Espagne et en Portugal qu'ils avaient besoin de passer par ça. Ou les croisades. Il y a toujours des trucs qui sont trop forts par rapport à nos yeux. Et donc c'est ça la question de Tisha B'Av. C'est ça la vraie question de Tisha B'Av. C'est pas une question nationale ou une question.
Est-ce que ce n'est pas un rapport avec le thème avec le demandé à Abraham à Il lui dit, est-ce que je ferai mourir mes enfants dans le
Guénon
ou l'exil? Et Abraham
à Guénon
a demandé.
Oui, mais l'exil, c'est pas forcément. Catastrophique. L'exil, c'est simplement ne pas être chez soi ou d'avoir des petits problèmes. C'est pas forcément des douleurs insupportables. On dit qu'il y avait du sang jusqu'à Eilat quand ils ont détruit le deuxième temple. Le premier aussi. Et à Bétard, il y avait du sang jusqu'à. Et il y en a qui disent, c'est pas une exagération, c'était terrifiant. D'accord? Le premier et le deuxième temple. Donc on voit bien que. Il y a la question qui est là, qu'on peut voir tous les jours. Pourquoi il semblerait que les gens qui sont propres, qui essayent d'être bien, souffrent plus que les gens qui sont apparemment méprisants de toutes les lois? Pas forcément au niveau de la Torah. Dans le monde, on voit bien que les dictateurs, ils sont plus heureux que le brave peuple. Pas forcément chez les Juifs, chez tout le monde, c'est comme ça. Tzadik ralo, rachat le tableau. Alors, il y a trois personnages qui ont posé cette question dans l'histoire. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu. Avant lui, on n'a pas posé cette question. Moshe Rabbeinu, il est le premier à avoir posé cette question. Quand il a reçu la Torah, il a voulu comprendre ça. Le deuxième qui a posé cette question, c'était Jérémie. C'est pour ça que le Arizal nous dit que Moshe Rabbeinu et Jérémie, c'est la même âme. Moshe et Jérémie, c'est la même neshama. Yirmiyahu. Non, Jérémie, c'est celui qui a prophétisé la destruction du premier temple et qui a assisté à la destruction du premier temple et qui a maudit le jour de son anniversaire parce qu'il est né le 9 av. Donc Jérémie, celui qui a écrit Echa, les Lamentations. Moshe, dans la paracha de cette semaine, dit Echa, Moshe dit Echa, et Jérémie dit Echa aussi. Comment se fait-il Echa? Comment est-ce possible? La troisième personne qui a posé la question, c'est Job. Iov. Qu'il ait existé ou pas, bon, ce n'est pas important. quand aurait-il existé non plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est sa question. Donc tous les trois ont posé la question de Tadik Veralo, mais la chavette. Mais les trois n'ont pas posé la même question. Pas la même question qu'ils ont posée. Mon cher Abénou a posé la question. Comment peut-on savoir qui est tzaddik, qui est juste et qui est racha, qui est méchant? D'après la réponse que Dieu lui fait au Sinaï, on comprend que c'était ça sa question. Comment déterminer, puisqu'il y a écrit dans la paracha d'Azinou, El Emouna Ve'enavel, Dieu est un Dieu fiable, et Enavel, il n'y a jamais de torsion chez lui. Donc s'il est fiable et qu'il n'y a pas de torsion, donc c'est-à-dire tout, en vérité, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Et donc, mon cher Abelou, ça l'a dérangé. Il a dit, si tout est au mieux pour le meilleur des mondes, bon, fais-moi connaître le secret de déterminer qui est un tzaddik et qui est un rachat pour que je puisse comprendre pourquoi celui-là est récompensé et celui-là est puni. Et Dieu lui a répondu, ça c'est un secret que tu ne connaîtras pas. Personne ne peut connaître la véritable définition d'un juste et la véritable définition d'un méchant. Bon, on ne peut jamais savoir. C'est-à-dire que tu ne peux, déjà pour atténuer ta question, ta problématique, ça te dérange tellement de voir le tzaddik vers à l'eau. Toi, tu crois qu'il est tzaddik, mais peut-être qu'il n'est pas tzaddik. Et toi, tu crois que celui-là est rachat, il n'est peut-être pas rachat. Et donc, n'ose pas dire que tzaddik, il est tzaddik et il a du mal. Non, il a ce qu'il mérite. Comme on a dit, en emuna ve'enavel. Dieu est fiable et il n'y a pas de torsion. Et la même chose pour celui que tu crois être rachat. Comme tu crois qu'il est rachat, mais moi, je te dis qu'il n'est pas rachat, donc votre tableau, il a du bien. Donc la définition, donc ce secret que voulait percer, mon cher Abénou, il a dit non. Il n'y a que moi qui peux savoir qui est tzaddik, qui est rachat. Non, personne ne peut définir qui est tzaddik, qui est rachat. C'est ça la définition. Tu peux définir d'après le Tanya, ce qu'on a vu d'après le Tanya ou d'après le Rambam. Un tzaddik dans un jugement ou un tzaddik par rapport à son âme animale, son âme divine, mais tzaddik dans le sens qui correspond à ce que Dieu attend de lui, et le rachat correspond à ce que Dieu ne veut pas, tu n'es pas apte à chiffrer qu'est-ce que font les gens. Malgré l'apparence, ça veut dire. Ton apparence te montre que celui-là est mieux que celui-là, mais tu ne peux pas savoir si c'est vrai.
Parce que l'homme est limité.
Tu ne peux pas savoir. Parce que l'homme ne peut pas savoir. C'est pas qu'il est limité, il est bouché, on lui bouche la vue. C'est pas qu'il est limité, on lui bouche la vue pour qu'il ne sache pas. Ah. D'accord ? Mais là-dessus, on raconte une histoire que vous connaissez toutes. Là-dessus, on raconte une histoire que vous ne connaissez pas. Vous avez entendu sûrement parler du grand commentateur de la Mishnah qui s'appelait Rabbi Yom Tov Lipman. Lipman, Yom Tov Lipman. Il est de l'autre côté du parti Nora, dans les livres de Mishnah. Rabbi Yom Tov Lipman, il habitait à Cracovie. D'accord ? Cracovie, c'est la deuxième ville de Pologne après Varsovie, et c'était là un endroit où il y avait un judaïsme très important pendant plusieurs siècles. Et lui, il était le rav de Cracovie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont là-bas visiter la synagogue du Rama, par exemple. Cracovie, oui, Cracovie. Il y a plein de, gens qui vont régulièrement visiter là-bas aujourd'hui. Et donc, ce Rabbi Yom Tov Lipman, il était rav de la ville de Cracovie, et il y avait un monsieur dans la ville de Cracovie qui s'appelait Yosef. C'était un homme immensément riche. Il avait une maison superbe, et il vivait très largement, etc. Yosef. Et oui, il portait son nom. Et il avait un problème, ce monsieur, c'est que tous les gens qui demandaient de l'aide, qui lui demandaient à ce qu'on les aide, il les jetait dehors. Jamais il acceptait de leur donner un gulden. Et tous les gens disaient, n'essaye même pas d'aller chez lui, il va te jeter dehors. Quand quelqu'un venait lui demander une aide, il parlait avec lui, une fois qu'il avait fini de parler, il lui disait, ben, le prenait, il le jetait dans l'escalier, et il lui fiche le camp de chez moi. Donc avec le temps, la communauté de Cracovie l'a mis en quarantaine. Et il voulait jamais rien avoir avec lui. Le temps a passé, et avant sa mort, il a convoqué les gens de la Chevra Kadisha. Alors, le président de la Chevra Kadisha est venu avec ses adjoints, et il a dit, voilà, il a écrit un testament, il lui a dit, voilà, c'est simple, si l'enterrement me coûte de l'argent, je ne veux pas de mon service. Alors ils ont dit, ben oui, c'est évident qu'il faut de l'argent. Il faut acheter sa place au cimetière de Cracovie. Il faut payer les fossoyeurs. Il faut payer le cheval pour arriver à l'enterrement. Alors il a dit, il a signé un contrat devant eux. Je sous-signais Yosef que je ne demande pas les services de la Chevra Kadisha. Et il a signé. Donc le président est parti avec la lettre. Quelques jours après, quelqu'un vient, il annonce que Joseph est mort. Alors, ils vont chez la Chevra Kadisha, il faut s'occuper de lui, il faut l'enterrer. Et le président, il dit, non, on peut rien faire. Il a signé qu'il ne veut rien, et comme ça coûte de l'argent et qu'il en a, on peut pas lui faire ça. Alors le malheureux qui était son voisin, il s'est occupé tout seul dans la nuit. En plus, il ne pouvait même pas avoir une place dans le cimetière, donc il l'a enterré dans un endroit désert comme ça, tout seul, sans personne, sans kadish, sans rien du tout. Personne ne l'a... Voilà, la paracha de Yosef. Et ils ont mis sur la tombe Ponitman Yosef Akamtsan. Ici est enterré Yosef le Lavar. Joseph Lavar. Bon. L'enterrement a eu lieu donc jeudi. Le lendemain matin, vendredi matin, le Rav Yom Tov Lipman était chez lui en train d'étudier, et très tôt on frappe à la porte. Il ouvre la porte, il voit un monsieur, il dit, c'est que vous avez une Sheila? Il dit, non, j'ai pas de question du tout. Je veux savoir si vous pouvez m'inviter Shabbat. Il dit, qui vous êtes? Ben, j'ai rien à manger pour Shabbat. Elle a dit, ben, au Shabbat, il n'y a pas de problème, je vais prévenir ma femme, elle va rajouter, pas de problème. Il dit, mais je suis pas tout seul. Il dit, ben, pas de problème. Je suis avec ma femme et j'ai 5 enfants. Pas de problème. Bon, il prévient sa femme, on a des invités, Shabbat, voilà ferme la porte. Il se remet à étudier. 10 minutes après, on frappe la porte. Bonjour monsieur, quelle est la chéla? Non, j'ai pas de chéla du tout. Pas de question du tout. Hein. Alors c'est quoi votre question? Ben je sais pas où manger, je sais pas quoi manger. Ah, vous savez pas quoi manger? Ben, venez chez moi. Prenez sa femme. Et on a encore des invités. Combien vous êtes? Oh ben, 6 enfants et ma femme et mon... Pas de problème. 3 minutes après, vous êtes le rab de la ville? Oui, je suis le rab de la ville. Vous avez une chéla d'Alakha? Pas du tout, j'ai pas de chéla d'Alakha du tout. Je sais pas où manger Shabbat. Ah, vous n'avez pas où manger Shabbat. Alors, c'est pas possible. En 20 ans que je suis rab de la ville, personne ne m'a jamais dérangé pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, celui qui arrive, le dernier qui arrive, il frappe encore une fois à la porte, encore une fois, un miséreux, avec toute une famille qui ne sait pas où passer Shabbat. Il dit, attendez. Maintenant, vous allez me répondre à ma question. Comment vous avez fait toutes ces années? Vous habitez là depuis longtemps, à Krakow? Il a dit, oui, on est là, on est des vieux habitants de Krakow. Comment vous faisiez tous les ans? Ben, il dit, écoutez, Vodarav, pourquoi on est venu vendredi matin? Parce qu'en général, le jeudi, l'après-midi, on allait chez le boucher et il nous faisait signe, il y a un sac pour toi. Voilà le sac. Après, j'allais chez le légumier, viens ici, il y a un sac. C'est pour toi. Après, j'allais à la macolette, il y a un sac pour toi. Et j'allais au poissonnier, il y a un sac pour toi. Et donc, on avait tout ce qu'il faut. Même le marchand de confiserie, pour les enfants, on avait un sac pour nous. Alors, il dit, appelez-moi le boucher. Alors, il réunit le boucher, le boulanger, il les réunit tous, d'urgence, vendredi matin. Allez, il dit, on est à le chouk aujourd'hui, on peut pas se permettre de fermer les magasins, c'est le meilleur jour de travail. Non, c'est très urgent, fermer le magasin pour une demi-heure, il faut que je fasse je clarifie ce problème. Et il leur parle à tous, il leur dit, je comprends pas, tous ces gens-là qui sont venus, il dit, oui, voilà, on avait une liste, on avait des centaines de personnes, on avait un sac prévu. Et alors, il dit, mais qui c'est qui vous a financé? Ah, on n'a pas le droit de dire. Vous n'avez pas le droit de dire, mais il faut le dire maintenant, parce que c'est très grave. Comment on va faire que c'est pour vous? Eh ben voilà, on doit vous dire que c'était, vous vous rappelez de celui qui est mort quelques jours, là, Yosef? C'est lui. C'est lui, il nous donnait un budget toute l'année, chaque magasin. Et donc, il y avait des milliers de pauvres qui passaient par ça, et donc c'était notre parnassa à nous, les magasins. Tous les magasins vivaient de ça. On préparait donc jeudi tous les paquets. Tout, en fin de mois, on était payé, mais on vivait de ça. Alors il a dit, c'est très grave ce qui s'est passé. On l'a excommunié, on l'a même pas enterré dans le cimetière juif, et on lui a rien fait. On a cru que c'était un rachat. Alors il a dit, je ne sais pas. Si le bon Dieu va nous pardonner ce qu'on a fait avec lui, avec tout ce bien qu'il a fait. Et le Kachaya, quand le Rav Yoptov Lipman est mort, il a demandé à ce qu'on l'enterre à côté de Yosef HaKamtsan, en dehors du cimetière en fait. Et il a dit qu'on écrive sur la tombe Yosef HaKamtsan Akadosh. Et donc voilà, on voit que toi tu as cru toute ta vie que c'était un rachat. En vérité, c'était un tzaddik caché. Et donc, toute ta vision que tu avais sur lui, elle était fausse. Donc, si tu juges quelqu'un en fonction de ce que tu vois, tu risques de faire des grosses bévues. Tu as vu quelqu'un donner de la tzedaka, mais peut-être qu'en vérité, c'est rien du tout par rapport à l'argent qu'il a. Donc, tu dis, ah, c'est un généreux donateur, mais peut-être qu'il donne beaucoup moins que toi qui n'as pas d'argent. Donc, Dieu a dit à Moshe, ça, ce secret-là, tu ne pourras jamais le savoir. Qui est tzadik, qui est racha, tu ne pourras pas le savoir. Moi, j'ai des critères, et les secrets des choses, vous ne pouvez pas les connaître. Donc, si tu vois quelqu'un, un tzadik qui souffre, et un méchant qui ne souffre pas, peut-être que il n'est pas si tzadik que ça, et l'autre n'est pas si racha que ça. Ça, c'était la réponse de Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand Jérémie a posé la question, Jérémie aussi, il a dit, tzadik verra là, c'est la lamentation, c'est la destruction du premier temple. Pourquoi tellement de sang qui a coulé à Jérusalem? Pourquoi tellement de morts? D'accord? Alors ça, c'est une autre question Qui t'a dit que c'est du ra qu'il arrive à quelqu'un ou que c'est du top qu'il arrive à quelqu'un? Qui t'a dit que c'est que ce qu'on a fait à telle personne, ça s'appelle du ra? Pour toi, c'est ra parce que c'est douloureux. Mais peut-être c'est pas du mal, c'est bien. C'est comme quelqu'un qui rentre chez un dentiste et il entend le monsieur qui est en train d'hurler. Bah, qui veut dire c'est un dentiste, c'est un boucher, c'est pas un dentiste, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah, il est en train de le soigner, justement, il n'est pas en train de lui faire du mal. Donc ce que tu vois être du mal à tes yeux, c'est en vérité peut-être pas du mal. D'accord? Et ce que tu vois être de la richesse, par exemple, c'est peut-être un moyen de perdre la personne. Moi, j'avais quelqu'un qui est venu me voir et qui gagnait un argent fou au sentier. Il était très riche. Alors, je dis, pourquoi vous venez me voir? En général, c'est les pauvres qui viennent me voir. Si vous venez me voir pour faire une trouva, je comprends. Mais quand vous venez me voir pour vous plaindre, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans votre... Eh bien oui, c'est plein que sa femme était partie avec son ami. Et il dit, pourtant, je leur ai tout donné, mes enfants, ma femme, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Donc on voit que son argent, c'est pas forcément une bénédiction à ce monsieur-là. Il avait beaucoup d'argent, mais il avait pas la bracha de cet argent. Donc, toi, tu vas dire, ah, tu te rends compte, il est blindé, celui-là, oh, il est riche. Il va au moins 5 fois en vacances, il a une Mercedes, il a ci, il a ça. Oui, mais son argent est un malheur, c'est pas un bonheur. Donc, toi, tu as cru que c'était une bonne chose. Et tu aurais dit, ben voilà, il fait pas la Torah, il fait pas les mitzvot, et il est riche. Ben oui, mais qui t'a dit que sa richesse, c'est bien la preuve. Il aimerait mieux ne pas être riche et ne pas être dans la rue. Donc, ce que Dieu a répondu à Jérémie, c'est que ce que toi tu appelles le rat et le tov, ce n'est pas forcément un critère exact. D'accord ? La preuve, c'est qu'on dit Racha v'tovlo, il est méchant et il a du bien pour lui il a du bien, mais dans l'absolu c'est peut-être pas un bien. Et l'autre aussi, il est tzadik v'ralo, c'est tzadik et il a du mal pour lui parce que lui pense que c'est mal pour lui. Mais qui t'a dit que c'est du mal? C'est peut-être pas du mal pour lui, c'est du mal parce que ça lui fait mal, mais qui t'a dit que c'est mal pour lui? C'est comme le dentiste. Pendant qu'il est sur le fauteuil, il hurle. Mais c'est pas parce qu'il hurle que c'est mal pour lui. Pour lui, il a mal maintenant, mais après, il va aller bien. Donc, qu'est-ce que tu cherches à savoir? Qu'est-ce que tu cherches à définir le bien et le mal? C'est tout à fait subjectif, le bien et le mal. Tu as été dans un magasin, il était fermé. Aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Tu as bien fait, parce que si tu avais acheté ce produit, il était empoisonné, par exemple. Tu aurais acheté un poisson abîmé ou un... Donc, qui t'a dit que c'était un malheur, ce qui t'est arrivé? Donc, c'est ce que Dieu a répondu à Jérémie. Il a écrit Tzadik Vera. Allez, il n'a pas écrit Tzadik Vera. Ça veut dire, pour lui, il pense que c'est mal, mais c'est peut-être pas mal. Et pour lui, il pense que c'est bien, c'est peut-être pas mal. Donc, rectifie ta notion du bien et du mal. Comme tous les Français qui arrivent en France, ils ont un mois de vacances. Ils savent pas quoi faire dans un mois de vacances, tellement. On dirait que c'est une catastrophe qui leur tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'on va faire pendant un mois de vacances? Ils vont se faire piquer par les méduses et par les moustiques. C'est une bracha d'aller en vacances? Je suis pas sûr. Tout le monde le fait parce que c'est les moutons, le panurge. Mais ça veut dire que ce que les gens appellent le bien n'est pas forcément bien. Par contre, ne me donnez pas un mois de vacances. C'est une malédiction. Les enfants n'ont plus d'ordre. Ils auront du mal à retourner dans les écoles. On n'est pas chez soi. On mange n'importe quoi. On s'attrape des empoisonnements trucs. Ouf! Ouf! Laissez-moi tranquille les vacances. Mais non, le ministère du tourisme, c'était quelques jours. Mais les gens, ils prennent 5 semaines, 4 semaines. Donc on voit bien que ce que les gens appellent du temps, c'est pas forcément du temps. C'est une mini-catastrophe. Donc vous voyez bien que la définition du bien et du mal, elle est hyper subjective. Et donc, ça c'est dans un cas sympathique, les vacances, d'accord ? Il y a des tas de choses dans la vie que les gens appellent des ils envient quelqu'un d'autre pour quelque chose qui n'est pas du tout un bien. Donc voilà ce que Dieu a répondu à Jérémie. La définition du tov et du ra ne dépend pas de tes critères à toi. Troisième définition, troisième appel du tov et du ra, c'est ce que Job a demandé. Job, il a dit la même chose. Pourquoi ? Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi le rachat est-il récompensé de ce qu'il fait, mais le tzadik est puni ? Et Dieu lui a répondu en substance, le mal et le bien dépendent de celui qui le donne. Dépendent de celui qui le donne. Ça veut dire que si tu sais qui est l'auteur de cette chose que tu reçois, tu vas savoir, tu vas toi-même définir si elle est bien ou elle n'est pas bien. Vous avez compris ? Si c'est un ami qui te fait quelque chose, tu vas dire sûrement c'est du bien. Si un ami t'envoie une lettre, tu supposes que c'est une lettre d'amitié. Et si c'est un ennemi qui envoie une lettre, tu peux supposer que c'est pour te faire des ennuis. Donc, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, s'il sait que ça vient de Dieu, il va le voir différemment que s'il pense que ça vient du hasard ou d'un ennemi. Si ça vient de Dieu, il va dire, ah, probablement que ça, qu'il y a du bien qui va sortir de là. Dieu ne me veut pas de problème. Mais si c'est quelqu'un, Dolmert ou n'importe quel méchant de ce monde, qui lui fait quelque chose, c'est sûr que, si on lui prend des impôts, il n'a aucune confiance que ces impôts vont aller à des causes justes. Donc ça va le faire rager. On lui a pris de l'argent, il ne sait pas si c'est juste ou pas. Mais si cet argent, on lui a pris pour mettre à la tzedaka, ben s'il est conscient, il va dire, ben très bien, j'ai fait une mitzvah. Donc tout dépend de l'auteur. Quand tu sais que ça vient d'un auteur gentil, tu ne considéreras jamais que c'est du mal. C'est sa confiance. Comme l'enfant qui se fait punir par ses parents, par contre. S'il aime ses parents et ses parents l'aiment, même s'il pleure, il sait que c'est pour son bien. Il va grogner pour le geste, mais au fond de lui, il sait que c'est pour son bien. Alors, s'il a affaire à quelqu'un qui ne l'aime pas, même si c'est pour son bien, il se méfie. Même si on lui donne des bonbons, comme c'est une personne qui ne l'aime pas, il va dire, non, je veux pas des bonbons, je me méfie. C'est peut-être des bonbons abîmés, ou on va me demander un prix très cher pour ces bonbons. Donc voilà la réponse que Dieu a faite à Job. Que le bien et le mal dépendent de la réflexion que tu as sur l'auteur de ce mal. Comme la blague, pas comme la blague, comme la réaction que vous auriez si on vous tape dans le dos, dans le chouk. Alors sur le coup, vous allez vous énerver, vous dites, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui m'a frappé dans le dos? Puis Tom, c'est votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis 30 ans. Ah! Donc cette tape dans le dos devient la tape d'un ami. Alors que si ça avait été un étranger, vous auriez fait une histoire. Pourtant, c'est la même tape.
N'est-ce pas que le bien
oui, non.
Le bien de Dieu, mais qui vient d'être le même auteur,
ça. Non! Mais Des fois, c'est Hachem directement, et c'est ça le travail, justement, c'est de décrypter qu'est-ce que c'est venu faire. Si je sais qu'est-ce que c'est venu faire, j'ai plus de peine. Vous comprenez? Si vous avez perdu un billet de 100 shekels, vous êtes en pétard. Si vous pensez que ce billet de 100 shekels a été récupéré par un pauvre, vous dites, bon, Hachem, j'ai fait la sédaka. Mais si vous avez perdu cet argent et vous supposez que c'est n'importe qui va le ramasser, vous allez dire, ah là 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 là, c'est vraiment râlant. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de choses bien avec cet argent? Donc chaque fois, vous décryptez le bien ou le mal d'une chose. Et donc, à ce moment-là, quand Yov a eu tout ce qu'il a eu, lui, c'était ça son problème avec ses amis. Ses amis lui ont dit, révolte-toi. Et lui, il a dit, non, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi ça vient, donc je ne me révolte pas. Même si je ne comprends pas pourquoi, j'ai confiance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, le principe Moshe, Jérémie et Yov? Moshe, on lui a répondu, tu ne sauras pas qui est juste et qui est méchant. Jérémie, on lui a répondu, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'appelle bien et qu'est-ce qui s'appelle mal. D'accord ? Tu ne peux pas définir quel est ce qui arrive à quelqu'un, si c'est pour son bien ou pas. D'accord ? Comme le bandit qui se casse la jambe au moment du vol. Tu vas dire, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'on casse la jambe? Justement, le fait qu'on t'a cassé la jambe, tu n'es pas un voleur. On t'a empêché de voler. Donc c'est une grande bracha. Ton plâtre est une grande bracha.
Et si quelqu'un dit quelque chose et que bien faire, elle ne pense pas bien. Parce qu'on sait que la vie est le fond de la chose.
Eh ben, c'est toute la vie, elle est comme ça, d'interpréter comme il faut. Et la troisième, c'était Yov. Yov, on lui a dit, à partir du moment où tu sais redécouvrir la raison d'être de ce bien ou de ce mal, tu vas pas dire que le tzaddik il est puni et que le méchant il est récompensé. La preuve, c'est que Yov, comme vous avez dit, Yov, il a laissé faire il n'a pas fait de mal aux juifs, mais il a rien fait justement. Donc, comme il s'est tu, j'attaque. Donc, sa réparation, c'était de se taire devant les malheurs. Ah, si tu te tais sur le malheur des autres, et que tu es capable de te taire sur tes malheurs à toi, alors là, je te les enlève. C'est pour ça qu'il a bien fini. L'histoire de Yov, elle finit bien. Il est redevenu à nouveau riche, etc. Pourquoi? Parce qu'il a réparé une erreur. Comme c'était quelqu'un de grand, le silence de quelqu'un de grand, eh ben c'est aussi grave que donc on voit bien que le prorata du bien et du mal ne dépend pas de vos calculs. Quelqu'un qui est grand, on exige de lui beaucoup plus. Quelqu'un qui est médiocre, on se contente d'un gribouille qui va faire un gribouille. Et c'est ça ce qui explique le Ramban. On va commencer avec le Rambam et nous finirons avec le Ramban. Nachmanid dit dans le Shar HaGmul, qui est cité dans le Tania d'avant-hier, de la fin de la lettre de la repentance, l'épître de la repentance, Yigayat HaTshuva. Il dit là-bas, le Ramban, il dit, sache que une vie de 70 ans de souffrance comme Yov a vécu, 70 ans de souffrance dans tous les domaines comme Yov a vécu, c'est une seconde dans le Géhinnom. Et il donne l'exemple du soleil. Le soleil est à des millions de kilomètres, donc quand le soleil se déplace de millions de kilomètres dans l'air, sur la Terre, ça fait à peine bouger l'ombre d'un morceau de bois. Donc ici, c'est un tout petit mouvement de quelques centimètres, Mais dans le ciel, ça fait des milliers de kilomètres. Alors, il dit pareil. Quand ici, tu as une... Si tu devais comparer la souffrance de l'enfer ou le délice du paradis, ça correspond à 70 ans de souffrance insupportable ici. C'est la même chose là-bas, une seconde. En intensité. Et le délice qu'on a au Gan Eden, ça correspond à 70 ans. On donne pas l'exemple sur Terre parce qu'il ne peut pas y avoir 70 ans de délice sur Terre. Personne n'a vécu ça. On a vu chez Yov commencer, on n'a pas vu de l'autre côté. Donc le Ramban te dit, le bon Dieu, il a ses calculs à lui. Quand il a affaire à quelqu'un qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses sur Terre, alors il dit, j'ai de la peine. Le mal qu'il a fait sur Terre, il va être obligé d'aller au Guéhinnom pour payer. Quoi, je vais l'envoyer au Guéhinnom, sachant que c'est infiniment plus douloureux qu'ici. Allez, tiens, je vais l'envoyer ici, comme ça il n'aura pas de Guéhinnom. Donc le gars qui a souffert ici, le peu qu'il a souffert, eh ben quand il arrive de l'autre côté, il n'a plus rien à payer. Il n'a que du bien. Et inversement, quelqu'un qui est une crapule sur Terre, d'accord? Quelqu'un qui est une crapule sur Terre, vous allez dire, attends, mais pourquoi tout va bien pour lui? Tout va bien pour lui, parce que c'est pas chute. Dieu ne veut pas lui donner le délice d'avoir le Gan Eden. Alors il dit, tout ce que tu as fait de bien, mais je vais te récompenser ici. Ici, tu auras tout. Comme ça, de l'autre côté, tu pourras rien me demander. Donc c'est un piège, en fait. C'est un piège. À la limite, s'il avait été intelligent, il aurait dit, donne-moi quelques malheurs ici, comme ça je suis tranquille. Non, rien du tout. Tu as pu avoir fait des pires crapuleries, tu resteras toujours Premier ministre, tu resteras toujours intouchable. Pourquoi? Parce que Dieu te bichonne dans ce monde-là. Donc en fait, c'est le char à gmoul. Le char à gmoul, c'est très grave ce que dit le Ramban. Normalement, il te dit, le monde est à l'envers complètement. Pour ça, vous avez des gens qui souffrent beaucoup, ils sont malades, très malades, etc. C'est intolérable. Ah, pourquoi il est comme ça, celui-là? Il ne peut pas étudier, il ne peut pas prier, il ne peut pas... Il est paralysé, il est si... Pourquoi? Parce que justement, on croit dans deux mondes, nous, on ne croit pas dans un seul monde. Donc, toutes ces réponses qu'on a faites à Moshe, Yirmiya et à Yov, c'est justement, c'est ça la galoute. C'est que tu es obligé de les laisser dans le domaine de la foi. Tu n'as aucune preuve de ça. Il n'y a que de l'autre côté que ça doit être vérifiable. Mais dans ce monde-là, c'est pas vérifiable. Et c'est ça la galoute. C'est que, comme c'est pas vérifiable, on a un grand mérite d'y croire, mais il y a un Chilul Hashem qui se fait quand même. Il y a un Chilul Hashem. C'est-à-dire, quelque part, il y a un blasphème, parce que quelque part, les méchants disent, ah, tu vois bien que c'est des idiots, ceux-là. Mais nous, on a choisi le bon cheval, le mauvais. Donc, c'est ça la raison pour laquelle Rambam a dit qu'il faisait le deuil le deuxième temps, parce qu'en vérité, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de que nos yeux voient qui est méchant, qui est juste, c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, tant que nos yeux n'auront pas été ouverts à ça, on est en situation de galoute. Non, en étudiant la chassidoute, on peut rien voir du tout, on peut que croire.
Voir, c'est croire.
Non, voir, c'est le contraire de croire. Le prophète Ishaïa, il dit, quand Mashiach viendra, on dira, Odra Hashem ki anaf tabi. Je te remercie de m'avoir fait du mal. Alors maintenant, je te remercie de m'avoir fait du mal, parce qu'en réalité, tu m'as nettoyé. Tu m'as rendu un grand service. Aujourd'hui, on le dit, et c'est pas évident de le dire avec Simcha. Mais à ce moment-là, tout sera clair. Dire, mais voilà pourquoi il a traversé tout ça, celui-là. Tu te rends compte? Parce qu'il avait une telle récompense qu'il est obligé d'avoir une paralysie ou d'avoir des souffrances avant de mourir ou d'avoir une vie dégoûtante. On l'attendait avec tellement de récompenses. Donc, rien qu'à ce moment-là, on dira « Otra Hashem Yanaftabi ». Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, pour l'instant, on est dans le stade de la Emouna, on ne peut pas être dans le stade de la Reiya. Vous connaissez l'histoire de, je vous l'ai raconté 3000 fois, que Rabbi Elimelech de Lichensk, il y avait des grands, grands, grands drames en, là-bas en Russie, avec chez les Chassidim, et avant de mourir, les Chassidim lui ont dit, on te demande, dès que tu arriveras au Galetem, demande à ce que ces décrets s'annulent. Il dit, je vous le promets, une fois qu'il s'en va, rien n'a changé. Alors son élève est venu en rêve, il lui a dit, alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il a dit, en bas, je croyais que c'était des décrets. Mais maintenant que je suis en haut, je vois que ce n'est pas des décrets, c'est des solutions. Et donc je ne peux pas prier. C'est ce qu'il vous faut. Donc ça veut dire, même si c'est très douloureux à encaisser, quoi. C'est pour ça que nous, comme nous ne connaissons pas la vérité, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui souffre, continue à souffrir. On doit prier pour qu'il ne souffre plus, on doit prier pour qu'il aille mieux financièrement, etc. Parce que on peut, dans ce monde, même dans ce monde-là, économiser les souffrances. On peut, comme on dit dans la Gemara, si je perds une pièce et que cette pièce va à la Tzedaka, le fait que je cherche cette pièce et qu'elle me manque, ça s'appelle une souffrance. Une petite souffrance, ça peut des fois économiser des grandes souffrances. Donc on n'a pas dit qu'il fallait devenir comme les martyrs chrétiens, souffrir et chercher la souffrance. Non, après, il faut chercher à l'éviter pour soi et pour les autres. Mais on doit découler de cette histoire-là que c'est ça l'enseignement de Tisha B'Av. C'est que Tisha B'Av, on est dans l'incapacité de comprendre. C'est pour ça qu'on s'assoit par terre et qu'on est. Pourquoi on est en deuil? C'est quoi le deuil? C'est que tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? C'est le fait que le monde du mensonge règne encore, c'est ça le deuil de Tisha B'Av. Je vous remercie de votre attention. Mais non.